C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, jingle.
Salut Julien.
Salut Samir.
Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du succès. Aujourd'hui, on vient avec une toute nouvelle invitée. Julien, est-ce que tu as envie de nous parler rapidement de cette invitée avant qu'elle se présente?
On a Lisa qui est avec nous aujourd'hui. Lisa, on va la cuisiner, la questionner sous tous les angles pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Et puis surtout, comprendre comment elle a réussi en fait à faire face à certains points d'adversité en lien particulièrement avec son futur emploi qu'elle recherchait et comment elle en est devenue, elle en est venue plus exactement à devenir une entrepreneuse et engagée pour une cause qui lui tient à cœur, qui touche à l'éducation
et
finalement à l'instruction de chacun pour qu'on puisse avancer, évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc Lisa, on te souhaite la bienvenue. Merci de ta présence.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Donc, on va te poser une série de questions. Et ces questions, elles ont pour but de te découvrir, de permettre aux gens qui vont regarder ou écouter ce podcast, selon sur la plateforme sur laquelle ils vont être, de découvrir qui tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, et puis comprendre un peu plus quelles sont les stratégies que tu as utilisées finalement pour faire face à l'adversité et atteindre les résultats que tu as aujourd'hui, l'impact que tu arrives à avoir aujourd'hui sur les gens avec qui tu travailles, sur ta communauté, ton environnement. Et à partir de là, tu vas juste partager ce qui te vient. Tu vas vraiment au naturel, et puis on va recevoir ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de gratitude. Donc
ça marche.
Voilà.
Est-ce que tu as envie, peut-être rapidement, de, même si Julien t'a un peu présenté, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas dit, est-ce que tu as envie peut-être de nous partager un peu qui tu es, peut-être d'où tu viens, quel est ce mouvement que tu as créé, justement, peut-être ce mouvement ou cette entreprise?
Merci déjà pour la présentation que j'ai trouvée synthétique, claire, et puis très juste par rapport à mes engagements. Donc moi c'est Lisa, j'ai créé Heureux d'apprendre en 2016. Heureux d'apprendre, c'est une structure à vocation éducative, donc dans le nord de la France. Voilà, je travaille sur la métropole du Nord. Ouais. J'espère que l'accent ne s'entendra pas trop. Hein.
C'est OK, on prend.
Mais effectivement,
moi, ça m'a manqué, donc ça me va. Hein,
je travaille dans le Nord, donc sur la métropole lilloise, mais aussi un petit peu dans le Valenciennois, le Douaisis, pour ceux qui connaissent. Et puis, l'idée, c'est, on en reparlera peut-être un petit peu, mais d'accompagner les publics de manière générale, avec quand même un focus sur le public jeune, tout simplement à accéder à l'épanouissement à travers l'éducation, mais aussi à travers l'insertion socio-professionnelle et notamment en développant les compétences interpersonnelles. Donc tout ce qui va être autour de la confiance en soi, des émotions. Je pense qu'on va revenir sur les émotions certainement dans l'interview, mais les émotions, la confiance en soi, le rapport à l'autre, développer finalement en fait toutes ces compétences qu'on n'a pas eu l'occasion de développer avant et pour lesquels on n'a pas eu d'espace en fait pour les développer, ce qui peut créer en fait des inégalités, puisque alors là je vais partir sur si vous m'arrêtez pas je vais partir sur mon truc, hein,
vas-y, mais
ça me tient à cœur, c'est qu'en fait ces compétences là elles se développent par le biais d'expériences en fait et d'activités, et donc on n'a pas tous accès aux mêmes expériences et aux mêmes activités selon nos parcours, et de fait on n'est pas égaux face à ces compétences là et le petit paradoxe, c'est qu'en fait aujourd'hui dans la société on nous demande et on exige qu'on puisse mobiliser ces compétences là pour avoir accès à un travail, pour réussir à l'école, etc. D'où l'engagement vraiment sur sur ces compétences là à côté de ça, je suis investie dans le monde associatif, donc de la boxe anglaise. Alors, j'étais beaucoup plus investie il y a quelques années. Là, avec le travail, j'y vais un peu moins, mais j'encadre aussi des jeunes en boxe éducative dans un super club qui s'appelle l'ABC Roubaix, qui a été 6 fois meilleur club de France. Et l'idée, c'est non pas de faire de la compétition en ce qui me concerne, même si j'ai d'autres collègues qui sont très bons là-dedans. C'est surtout de développer toutes les compétences dont on a parlé, mais par le support de la boxe et dans un secteur un peu plus associatif et informel.
J'imagine se canaliser, maîtriser ses émotions. Se contrôler dans ses réactions.
Ouais, le rapport à l'autre aussi, c'est intéressant.
Le rapport à l'autre, ouais.
Ouais, complètement. C'est hyper intéressant comme sport par rapport à ça.
Vraiment. Tu dois connaître peut-être Daouda, du coup, j'imagine. Oui. Daouda So.
Ouais. Bah, c'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a fait connaître la boxe anglaise et ensuite j'ai été du côté de Roubaix. Mais c'est avec lui effectivement que j'ai commencé.
Nice, vraiment cool.
Merci pour ce petit temps de présentation, Lisa. On va avoir donc, comme tu le sais, différentes questions qu'on va te poser. On aime toujours commencer par une série de questions un petit peu random où on questionne sur des choses qui n'ont pas rapport du tout. Pour détendre un peu l'atmosphère, puis peut-être obtenir des choses, peut-être des anecdotes ou des choses drôles ou surprenantes de ta part. Et puis après, on ira explorer un peu plus qui tu es en profondeur, ta manière de fonctionner et comment est-ce que ceux qui nous écoutent ou nous regardent pourront apprendre en fait à suivre un chemin similaire au tien pour faire face à leurs propres épreuves, leurs propres challenges et puis du coup progresser vers les projets qui les intéressent. Donc, la première question que j'aurais pour toi, ce serait si tu devais te décrire en utilisant seulement 3 emojis, tu choisirais lesquels ?
Les plus expressifs.
Ouais.
Donc, je choisirais celui qui est mort de rire. Je choisirais celui qui est énervé, là, qui dit les gros mots, là.
Ouais.
Ouais, je dirais, et puis celui aussi avec plein de cœur autour de lui.
Ok, autour.
Je vais en choisir 3. Parce que, effectivement, je suis quelqu'un d'assez expressive et quand je vais dans une émotion, j'y vais à fond. C'est pour ça que j'ai pris ceux qui sont un peu extrêmes. Voilà, si je suis en colère, je suis très en colère. Si je suis joyeuse, je suis très joyeuse. Et puis, j'ai pris l'amour en troisième parce que j'essaye quand même de développer ça au quotidien. Et puis, là, par exemple, il neige. J'aime beaucoup. Je vais voir toujours le côté un peu. Beau et esthétique des choses et c'est pour ça que j'ai pris celui-là.
Ok, super. Génial, je te remercie.
Moi j'aurais envie de te poser une question qu'on n'a jamais posée à personne, mais si tu devais être un personnage de dessin animé, qui serais-tu ?
De dessin animé ?
Ouais.
Bon, il y a Lisa Simpson là qui me vient en tête, mais c'est pas fait exprès. Mais parce que c'est un peu ça. Là, en dessin animé comme ça, j'ai des personnages plus de livres. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais de dessin animé, j'ai plus, peut-être Lisa Simpson, qui a le côté un petit peu sensible et puis un peu, intellectuel de la famille qui vient toujours pour essayer de dire à tout le monde, mais attention, machin. J'ai un peu ce côté, petite, c'est vrai qu'on m'a toujours dit Lisa Simpson. Donc, bon, c'est ce qui me vient là, mais.
Ouais. C'est son côté sensible qui te parle, c'est ça?
Ouais, peut-être le côté un peu plus posé, sensible, et puis toujours à questionner les choses, à essayer d'aller apprendre, à essayer d'orienter les autres. Bon, c'est un peu ça peut-être. Ouais.
Ok.
Autre question, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel que tu choisirais et pourquoi ?
Un super pouvoir, me téléporter, je pense.
Ouais.
Téléporter.
Je crois que c'est cool.
Ouais, pour pouvoir aller dans plein d'endroits différents. J'ai peur de l'avion, donc ça m'éviterait ça. Ça m'éviterait de prendre. Non, mais ce serait vraiment pour aller... j'aimerais bien avoir plusieurs vies dans une même vie. Du coup, la téléportation permettrait de faire plein de choses en même temps à plein d'endroits différents, de rencontrer plein de monde différents. Et ce serait ça. J'ai quand même pensé à lire dans les pensées, mais en vrai, je suis pas sûre que ce soit un pouvoir très agréable. Donc, je préfère ne pas savoir que dans les pensées des autres. Je pense que téléporter, c'est mieux.
J'avoue.
Je pense.
Tu parlais de livres. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi le livre qui t'a le plus inspiré dans ta vie et pourquoi ?
Alors, inspiré... En fait, c'est le premier roman que j'ai lu quand j'étais petite. C'est Mathilda de Roald Dahl. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas.
Ouais.
Ça me dit quelque chose.
Je sais pas. Moi, je pense au film Mathilda, mais c'est ça ? Ok.
Ouais, il est inspiré du livre de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est un grand écrivain pour les enfants, mais en fait, quand on le lit avec les yeux d'adulte, c'est très profond aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a inspiré. Alors, je l'ai lu. C'est vraiment un des premiers romans que j'ai lu, et c'est resté parce que, pareil, un peu comme ce que je disais sur Lisa Simpson. Je sais pas si ça m'a inspiré, mais ça m'a En tout cas, je me suis reflétée dans le livre parce que Mathilda, c'est pareil, son super pouvoir, si on lit avec nos yeux d'adulte, ce sont ses émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est très hypersensible, qui est dans un contexte qui est pas facile, qui trouve pas sa place et qui, du coup, va se réfugier dans les livres. Et elle va aller beaucoup dans son imaginaire, elle va lire les plus grands romans anglo-saxons, des grands auteurs à son âge, en fait, alors que les autres enfants de son âge ne lisent pas ça. Et en fait, elle va se forger un petit peu son identité à travers les livres qu'elle va lire, et elle va aussi faire face à l'adversité à travers tous ces personnages qu'elle rencontre, etc. Et en fait, dans le livre, elle a des super pouvoirs, justement. Mais quand on lit, on va dire, avec un niveau un peu plus haut, on voit qu'en fait, ce sont ses émotions. Et à la fin du livre, bon, je spoil un peu, hein, je sais pas si vous avez prévu de le lire, mais elle se stabilise dans sa situation au niveau émotionnel. Et en fait, ses pouvoirs disparaissent. Et en fait, elle dit, ah bah, tiens, j'ai plus de pouvoir. Et en fait, c'est le moment où, elle a trouvé sa place, etc. Et donc, en fait, elle avait fait ses émotions qui débordaient des pouvoirs. Donc, c'est un super livre. Et je pense que, inconsciemment, ça m'a initié à, peut-être des choses que je vivais sans pouvoir mettre des mots, et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là. Donc ce serait celui-là.
Sympa. J'ai connu le film, je l'ai vu quand j'étais gamin, j'étais au centre social de Lomelay à l'époque, tu sais, je partais pendant les vacances, là, et on a été voir Mathilda, et je sais que c'est un film que j'ai revu. Ouais. Je ne sais pas si le roman est à 100% pareil, mais en tout cas, peut-être que je devrais lire le roman.
Ouais, en fait, le film est bien. Le film est top. Ouais. Et c'est vrai qu'il est plus à portée humoristique parce que c'est aussi un roman drôle, hein. Roald Dahl aime bien mettre de l'humour, beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que le roman, il y a une dimension très poétique et beaucoup plus profonde que dans le film, et c'est très intéressant à lire.
Ok.
Mais le film est bien aussi. Je l'ai revu et revu aussi.
Merci pour ça. Merci pour ce partage.
Alors, tu évoquais tout à l'heure la possibilité de te téléporter et de voyager et d'aller à droite, à gauche. On va changer un petit peu la donnée du voyage. Si tu pouvais voyager dans le temps, ce serait quoi l'époque ou le moment historique où t'aimerais aller et pourquoi?
C'est une bonne question. Je sais pas si j'aimerais aller dans le passé, en fait. Hein.
Ouais.
Peut-être dans le futur, je dirais plutôt.
Ok.
Ouais, peut-être plus dans le futur. Alors le passé, si vraiment je dois dire un élément du passé... Ouais, non, je crois que je suis plus portée. C'est vraiment une bonne question parce que je trouve pas dans le passé. Je dirais le futur pour voir un petit peu de quoi demain est fait. Je pense que ce serait plus dans le futur que je voyagerais. Là, comme ça, il n'y a pas une époque qui me... En fait, il y a des époques qui me viennent, mais j'ai tout de suite le côté... Ouais, non, mais le futur...
Pas sûr de vouloir y aller.
Ouais, c'est ça. Ouais, le futur. Sinon, en vrai... Ce serait plutôt voyager dans le temps, mais dans mes ancêtres. Ça, j'aimerais bien.
Ouais.
Voir un peu, mais vraiment mes ancêtres arrière-arrière, qui c'était finalement, d'où je viens réellement, comment ils vivaient. Ce serait plus ça. Ouais.
Ok. Super. Je te remercie.
J'ai envie de te demander quel talent caché ou compétence peu connue tu as et que les gens seraient surpris d'apprendre.
Je l'ai un peu dit, je pense, mais.
Tu l'as dit, ouais.
Un peu, hein. J'ai réfléchi quand même. Talent caché, j'ai... je pense que, c'est le fait que j'ai fait de la boxe anglaise pendant plusieurs années. Souvent, ça surprend, parce que j'ai un gabarit, peut-être pas, mais je fais 1m50, je suis menue, et puis, on s'y attend pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'ai découvert et que j'ai vraiment bien aimé. Et je m'en sortais pas mal. Après, j'ai pas fait de compétition à haut niveau, mais je m'en sortais pas mal et c'est un sport que j'ai bien aimé. Et souvent, ça surprend, je dirais ça. Je dirais le sport, mais notamment la boxe anglaise.
Ouais, d'accord. Merci à toi.
Peut-être pour aller un peu plus loin sur ce talent caché et cette expérience de boxe que tu as eue, qu'est-ce que ça a développé peut-être chez toi le plus? Qu'est-ce que tu en retires le plus?
En fait, j'ai découvert ce sport à un moment où ça n'allait pas trop. C'était pas du tout un sport que je m'apprêtais et que je m'attendais à faire. Hein. J'avais des copines qui avaient testé et quand elles m'en parlaient, je disais c'est cool, mais ça me donnait pas plus envie que ça. Et c'est effectivement donc en rencontrant Daouda avec qui j'ai travaillé que j'ai commencé. Et ça a été une révélation parce qu'effectivement, ça m'a fait travailler. Bon, bien entendu, déjà l'expression et le fait de décharger les émotions, etc. Mais aussi le rapport à l'autre, c'est assez intéressant. Le rapport à soi-même, par exemple, est-ce que je suis capable de prendre des coups? Est-ce que... Parce que dans la boxe, en fait, il y a effectivement, on donne des coups, mais il faut aussi être capable d'en encaisser. Et il faut aussi jauger la distance avec l'autre. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut transposer dans la relation à l'autre. Et c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Par exemple, la volonté de contrôle. Quand on est trop dans le contrôle, moi, je suis quelqu'un qui est quand même pas mal dans le contrôle, on est trop rigide. Donc, en fait, ça peut pas être fluide. Et c'est Mohamed Ali qui disait « Vole comme le papillon et pique comme l'abeille ». Donc, en fait, on doit être très flexible et très léger quand on se déplace. Mais au moment, effectivement, d'agir, donc de donner le coup, on doit être précis et percutant. Et si on est dans le contrôle tout le temps, en fait, on n'a pas cette légèreté de mouvement et de déplacement. Et moi, ça m'a montré qu'en fait, effectivement, j'ai dû apprendre à me retrouver plus et à laisser les choses en fait se faire, à entrer en communication du coup, aussi en acceptant de laisser entrer l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très très intéressant. Donc, ça m'a appris à me connaître, je dirais, et à me dépasser aussi. À me dépasser. Génial. Parce que c'était un entraînement qui était compliqué. Ouais.
Vraiment top.
Super. Cool. Merci pour ta réponse.
Merci. Merci à toi.
Oui. Peut-être pour une dernière question avant qu'on attaque le vif du sujet, si tu avais une citation, un mantra qui te fait sourire ou qui te motive, ce serait quoi ?
J'aime bien la citation de Mohamed Ali, une autre. Du coup, c'est il disait « J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Endure maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion ». Et j'aime bien cette citation parce que bon, elle pousse à la persévérance et à dépasser les difficultés, mais c'est surtout sur le côté espoir, c'est de se dire des fois c'est compliqué, mais en fait c'est toujours voir l'après et se dire que ça peut aller mieux par la suite, c'est qu'il y a forcément toujours la lumière au bout du tunnel et que donc s'accrocher à l'après, ça permet de traverser les moments de difficulté. Donc c'est vrai que je la trouve assez inspirante. Et sinon, il y a demain est un autre jour, ça m'aide. Ça, c'est quand j'ai vraiment besoin de me dire demain je me réveillerai, ça sera une nouvelle journée, et ça permet de passer à autre chose aussi sur des choses qui peuvent parfois mal se passer dans la journée.
Ok. Génial. Voilà. Alors, peut-être que tu le vois pas comme ça de ton côté pour l'instant, et on va revenir sur tout ce que tu nous partages, parce qu'on prend des notes avec Samir. Donc, ça nous permet de revoir un peu tous tes partages. Mais il y a déjà des choses qui ressortent juste avec des réponses comme tu le donnes sur des questions, c'est un peu random, là. Et il y a des choses très intéressantes qui ressortent. Donc, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus sur justement qu'est-ce qui fait que tu es toi dans ton mode de fonctionnement, et puis comment ta manière de fonctionner aussi t'accompagne justement à aller de l'avant, de progresser, puis de dépasser les challenges que t'as pu rencontrer dans ta vie jusque-là, et puis peut-être aussi quelque part avoir plus en conscience ta manière de fonctionner pour que tu l'utilises plus facilement pour tous les challenges qui arriveront pour la suite. Donc, c'est cool. Merci en tout cas déjà pour toutes ces belles réponses. C'est vraiment chouette.
Merci à vous.
Merci, ouais.
Alors, donc, on va passer à d'autres questions. Peut-être, Samir, est-ce que tu voudrais qu'on commence avec les réussites de Lisa, les challenges ? Je te laisse décider des points que tu as envie d'aborder en premier.
Moi, j'ai bien envie de savoir, c'est quoi l'une de tes plus grandes réussites ?
Je réfléchis, mais c'est vrai que quand on me pose cette question, je parle souvent de mon travail. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses, mais ça reste quand même mon travail dont je suis très fière. C'est d'avoir pu construire, parce que ça fait bientôt 8 ans, construire cette activité, mais aussi l'écosystème qu'il y a autour. Et puis j'ai eu dans cette réussite-là, j'ai eu des expériences incroyables que j'aurais jamais pensé vivre. Enfin, j'ai été sur scène avec Xavier Niel, donc le PDG de Free, où j'avais pu témoigner de mon parcours avec lui à côté, à Station F, qui est l'un des plus grands incubateurs à Paris européens pour les entrepreneurs. Enfin, c'est des trucs où, avant 2016, n'existaient même pas dans mon esprit, quoi. Donc, il y a eu ça. J'ai rencontré aussi Madame Elisabeth Moreno, qui était à l'époque la ministre de l'Égalité des Chances, où pareil, j'ai pu témoigner de mon parcours. Enfin, notamment, grâce à une super association qui s'appelle Entrepreneurs dans la Ville, dans laquelle j'étais incubée. J'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé. Et dans cette super réussite, il y a aussi tous des micro-réussites et des expériences que je pense que je n'aurais jamais pensé faire ou jamais fait sans heureux d'apprendre. Donc, je dirais que c'est ça, c'est vraiment d'avoir pu construire petit à petit cette expérience-là et la faire pérenniser. Mais en fait, je dis que c'est une grande réussite, mais enfin, je réponds à votre question par ça, mais en vrai, je suis assez reconnaissante parce que je pense que c'est aussi une forme de destin, des choses aussi des portes que j'ai ouvertes mais qui m'ont été présentées. que j'ai ouverte, hein, j'ai agi, mais c'est aussi, voilà, je suis reconnaissante aussi, je suis pas que dans la fierté. Je suis reconnaissante d'avoir pu avoir l'opportunité de construire cette expérience-là. Donc, ouais, ce serait mon travail, ma plus grande réussite, je dirais.
Justement, j'ai envie d'aller un peu plus loin, surtout aussi pour nos auditeurs, parce que je pense que ça pourrait les inspirer. Ta plus grande réussite aujourd'hui, c'est ton travail, mais tu m'avais aussi parlé des portes qui t'ont été fermées, qui t'ont poussé à aller vers la création de ce projet. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu?
Ouais, je peux en parler un peu. Donc effectivement, en sortant de l'école, j'avais à peu près 25 ans, il me semble, 24, 25. Et donc en cherchant du travail dans la sphère pédagogique, j'ai d'abord cherché dans des métiers qui étaient quand même équivalents à mon diplôme, donc bac plus 5, et où on me disait, déjà on me répondait pas. Je crois que j'avais pas trop de réponses pour ces métiers-là. Et voyant qu'effectivement, je me disais, c'est peut-être le système, il y a peut-être pas beaucoup de travail. J'ai baissé un peu mes attentes et j'ai commencé à chercher aussi sur des postes moins qualifiés. J'ai commencé à avoir des entretiens. Et en fait, très clairement, en fait, on me prenait pas par rapport au voile, hein. Ça l'a été parfois dit de manière indirecte. Et une fois, on me l'a vraiment dit. En fait, j'ai eu une expérience où j'ai fait un entretien qui s'est bien passé, très bien passé, pour être à l'époque une création de poste en tant qu'assistante sociale dans une association d'insertion. Et puis la personne m'a dit, franchement, c'est super et tout ça, mais moi je regrette une chose, c'est que vous soyez venue avec le voile, quoi. Et je lui dis, je suis assez étonnée quand je repense à ça parce que j'étais à l'époque pas aussi affirmée que maintenant, mais je lui ai quand même dit, je travaille pas encore pour vous, donc je viens telle que je suis. Ensuite, on va discuter ensemble si jamais il y a des ajustements à faire, même si moi, je voulais pas l'enlever, mais j'étais prête à, je sais pas s'il faut mettre un chapeau, si... En fait, j'étais vraiment, à l'époque, j'étais pas du tout fermée, quoi. J'étais dans l'échange. Et il m'a dit non, mais vous auriez pas dû venir avec, etc. Donc c'est tout, on finit l'entretien. Moi, j'ai bien fait comprendre que du coup, non, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Et ensuite, il a dit à la personne qui me suivait à l'époque en mission locale que j'avais été la meilleure candidature de ces candidatures, mais qui me prendraient pas par rapport à ça. Donc déjà là, ça m'avait mis un peu une claque en me disant ok. Puis après j'ai continué à chercher. Enfin, on me faisait passer. J'ai fait une expérience en tant que j'avais postulé pour être téléconseillère, ce qui était pas du tout. C'était bac quoi, hein, c'était diplôme bac. Donc c'est super, hein, c'est un métier comme un autre. Mais c'est juste que c'était pas du tout ce à quoi je me destinais initialement. On m'a fait passer des tests de français. J'ai pas été prise. Bon, j'ai un bac L. J'ai quand même un master, donc pareil, je me disais, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Et après, et puis, vraiment, l'expérience qui a marqué le coup, c'était quand, parce que, en fait, pendant toute cette période-là, il y a quand même, à un moment donné, une phase de désespoir, enfin, un petit peu de plus de panique que de désespoir, plus de panique, de se dire, en fait, je passe mes soirées à cliquer, copier-coller, envoyer des mails, machin, j'envoyais. Et puis, on me répond pas, quoi. Et puis, j'en étais à, quand les recruteurs m'appelaient, de prévenir. Ça, c'est un truc que je ferai plus jamais et que je conseille à personne de faire. Je trouve ça hyper dégradant pour soi-même. Mais je le faisais, en fait, je prévenais en disant, je préfère vous le dire. En fait, j'ai le voile. J'espère que ça pose pas de problème. Enfin, limite, je m'excusais en avance. Et c'est tout. C'est avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'était pas forcément la meilleure manière de faire. Mais j'étais jeune. Et puis, donc, j'ai été prise pour enfin dans un travail avec 2 à 4 heures par semaine. Donc, c'était vraiment rien du tout. C'était de l'accompagnement scolaire en école, dans une asso, mais on intervenait en école. Mais j'étais heureuse parce que je me suis dit, au moins, j'ai une activité. Et puis surtout, mes parents aussi qui m'ont vu aller à l'école, qui m'ont vu faire de longues études. Enfin, je suis la seule qui a fait des longues études comme ça. Puis on a l'impression que ça sert un peu à rien, puisqu'au final, je me retrouve chez moi, envoyer des mails et à rester chez moi, quoi. Donc là, je me suis dit, j'ai trouvé un travail, c'est déjà ça. Donc, j'ai commencé et j'avais à peu près 16 gamins à moi tout seul. Ça se passait super bien. Je gérais les parents. Enfin, vraiment, tout se passait très, très bien. Et un jour, j'ai reçu un appel, je me souviens, j'étais chez moi, je regardais la télé, et j'ai reçu un appel où la personne m'a dit, faut pas revenir lundi, faut plus revenir, parce qu'on a reçu un appel de la mairie, et du coup, ça gêne que vous puissiez intervenir en école, alors que l'association m'avait accepté à l'époque, comme ça. Bon, je le mettais déjà en turban et tout ça. Hein. Donc j'avais vraiment fait l'effort aussi. Et ils m'ont dit, faut plus revenir, du coup. En fait, la phrase, faut plus revenir, j'ai pas eu d'entretien, on m'a pas considéré. On n'a pas eu d'échange avec moi pour m'expliquer. Juste, faut plus revenir, on a eu un appel. En fait, ça s'est fini comme ça. Et ouais, là, ça a été très compliqué pour moi à recevoir. J'ai demandé à ce qu'on me fasse un papier officiel sur lequel ils ont menti en disant qu'on m'avait demandé d'enlever mon voile et que j'avais refusé. Enfin, ils m'ont vraiment pas du tout considéré. Ils ont menti et tout ça. Et en fait, à l'époque, je me suis pas défendue dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, si ça m'arrivait administrativement, j'étais en droit d'eux parce qu'on m'avait accepté comme ça, je l'ai pas fait. Mais quelques années plus tard, du coup, bon, après, voilà, j'ai créé Heureux d'apprendre, je me suis appuyée suite à cette expérience sur la mission locale de ma ville, et j'ai trouvé des gens géniaux et qui m'ont accompagnée, et en fait, qui ont vu aussi les ressources que j'avais à offrir, et moi, je suis arrivée en disant juste, je veux juste travailler légalement. En fait, je veux un numéro ciré pour faire des cours aux enfants. Comme ça, je suis pas dans l'illégalité et j'ai un numéro ciré. C'était ça mon projet à la base. Et puis en fait, on m'a accompagnée pendant un an, j'ai fait des stages, j'ai fait des formations. Et en fait, je me suis dit, ah mais en fait, je peux faire beaucoup plus que ça. Et le projet s'est créé. Et peut-être 3-4 ans plus tard, cette même mairie, mais je pense qu'ils s'en souviennent pas, ont fait appel à moi et font toujours appel à moi. Donc, je les nommerai pas parce qu'ils s'en souviennent certainement pas, pour les former et former leur cadre faire des séminaires d'équipe auprès de leur équipe. Et donc, finalement, je me dis, waouh, peut-être que aussi cette espèce d'acceptation et de lâcher prise et de passer à autre chose en étant dans la construction derrière, en fait, la balle, elle a été renvoyée différemment. Et aujourd'hui, je forme peut-être une des personnes qui se souvient pas de moi, mais qui avait appelé en disant, faut plus qu'elle revienne, cette jeune fille. Donc, voilà un peu pour l'histoire.
Merci beaucoup. J'adore ce genre d'histoire.
C'est une super histoire. Mais c'était pas évident parce que je pense que ça a aussi créé beaucoup de blessures chez moi, de rejet et de non-acceptation. Et aussi, où je pense que j'ai encore à travailler sur ça, mais moins qu'au début, j'étais beaucoup dans le fait de prouver. En fait, je pense que je suis encore un peu, si je suis honnête avec moi-même, mais toujours prouver, faire ma place, devoir. Et en fait, au bout d'un moment, c'est épuisant. Mais je pense que ça a créé aussi ce truc-là de je suis pas légitime et du coup, il faut absolument que je montre que mon travail, il est bien et que on peut me faire confiance, etc. Donc, c'était... Mais je le regrette pas du tout. Sinon, il y aurait jamais eu toute cette aventure et vous ne seriez pas en train de me parler. voilà. Donc, je le regrette pas. Vraiment,
on n'aurait pas la chance de te rencontrer et puis de te parler de tout ça, effectivement. C'est vrai que ce que tu partages, je pense qu'il y a plein de personnes qui écouteront ce podcast qui vont se retrouver. Parce que même encore aujourd'hui, en 2024, c'est des situations qui continuent de se produire, puis partout dans le monde. T'sais, moi, je suis au Québec, puis j'en ai entendu aussi des affaires pareilles. Là, c'est « Ah non, je la prendrai pas parce qu'elle a le voile. » Donc, c'est des situations qui sont complexes. Et ce que tu amènes... alors, j'ai un de mes amis qui s'appelle Habib et qui s'occupe justement d'accompagner la transition, en fait, des migrants dans l'arrivée en fait sur un nouveau territoire, puis comprendre comment on peut prendre sa place, comment on peut trouver finalement son travail, faire valoir aussi ses compétences. Et c'est vrai qu'il avait ramené un point dans une discussion où c'était, on retrouve, alors chez ceux vraiment qui vont faire l'effort de vouloir s'intégrer, c'est toujours pareil, on fonctionne pas tous pareil, mais chez ceux qui ont vraiment ce désir de pouvoir prendre leur place, il y a cette injonction de devoir faire plus, de devoir montrer plus, de devoir prouver plus, parce que il faut réussir justement à prendre sa place. Et c'est vrai que quand t'as des expériences comme ça où, tu sors de l'école, t'es prête, t'es engagée, t'as envie, t'as une passion, puis en face de toi, c'est tout le temps, non. Et puis on te donne des raisons qui sont pas, qui sont pas moralement honnêtes, là, c'est pas,
complètement.
Ça n'a aucun sens. Donc, bravo à toi, vraiment.
Merci.
Bravo à toi pour avoir su rebondir comme ça. Super inspirant.
Merci. Et puis, c'est aussi l'importance peut-être de s'entourer, parce que vraiment, je les remercie encore actuellement. Mais les gens aussi qui ont été là pour me dire, en fait, tu peux faire autrement. On m'a parlé de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est aussi ces gens qui ont su m'entourer. Et ce qui est triste, c'est quand justement on se renferme sur soi et qu'en fait on se dit, c'est tout, personne veut de moi. Et donc, et en fait, c'est ça qui crée le repli. C'est ça qui crée le repli. Effectivement. J'ai la chance, effectivement, d'avoir eu et d'avoir été aussi toquer aux portes et demander de l'aide. Mais il y a des personnes parfois qui n'osent pas ou qui n'ont pas l'entourage pour, et on n'a pas d'autre choix que de se replier, quoi. Donc, je suis reconnaissante de ça.
Génial. Ouais.
Vraiment.
Alors, on a exploré un peu les deux aspects. Le côté, c'est quoi ta réussite la plus importante pour toi? T'as quand même parlé d'un challenge qui était pas un petit challenge, mais qui t'a amené justement à cette réussite-là. Est-ce que si je te demande à nouveau de nous parler d'un des plus grands challenges que t'as pu rencontrer, est-ce qu'on reste sur le même ou est-ce que t'en aurais un autre que tu aurais envie de mettre en lumière aujourd'hui, un problème, quelque chose qui est venu vraiment te, tu sais, qui a été difficile pour toi, mais où t'en as tiré des enseignements, mais quelque chose qui a été, c'est ça, difficile à traverser. Est-ce que tu aurais l'envie de partager autre chose?
Ouais, j'en ai deux. Je vais en parler d'un qui s'est passé du coup en décembre dernier, donc il y a un an, presque un an. J'ai eu une grosse perte de motivation et une perte de sens. Je savais plus, enfin vraiment, j'ai commencé à avoir des angoisses à l'idée de travailler. Enfin, je voyais plus aucun sens dans rien. Et du coup, en plus, j'avais à l'époque une équipe à ma charge de 6 personnes. Donc, où on bossait tous ensemble. J'ai fait grossir Heureux d'apprendre. C'est vrai que j'ai pas dit, mais au bout d'un moment, Heureux d'apprendre, c'était plus que moi. C'était aussi 6 personnes qui travaillaient avec moi. Et on avait vraiment, et que j'ai formé en interne et du coup, qui étaient formés à la pédagogie Heureux d'apprendre et tout ça. Donc, c'était vraiment une grosse équipe. Et l'étape d'après, c'était de créer des antennes. Donc, par exemple, qu'il y ait une antenne dans le Nord, une antenne sur Paris, etc. avec des managers. Enfin, c'était vraiment un autre schéma. Et bizarrement, je passais jamais le pas et j'arrivais pas à appeler les contacts qu'on me donnait. Je passais pas le pas pour créer ces antennes-là. Et en parallèle, donc, j'ai eu cette grosse baisse de motivation. J'ai commencé à avoir un épuisement. Je pense que ce que je qualifie aujourd'hui d'épuisement, même si à l'époque, je le qualifiais pas comme ça, je pense qu'en fait, j'étais en prémisse d'épuisement. Et un soir, donc, j'ai une très, très grosse journée. J'ai une collègue que je croise un soir sur le parking qui me dit mais t'as vraiment une tête, mais faut te reposer, t'as l'air fatiguée. Donc j'écoute et tout, je dis ouais, t'es pas la première à me le dire. Et puis je rentre chez moi et j'ai pris des billets pour aller dans le sud et je suis partie dans le sud seule. J'ai pris les billets, il était 22h et je suis dans 7h le matin, je crois que j'étais partie. Et je suis partie quelques jours, mais je suis partie vraiment en mode faut que je comprenne ce qui se passe. Je l'ai dit, j'aime bien contrôler. Du coup, c'était compliqué pour moi de pas savoir ce qui se passait, j'arrivais pas à comprendre. En faisant le point, tout allait bien finalement, donc je comprenais pas. Donc j'ai pris un carnet, puis tous les jours j'écrivais, j'essayais de me dépolluer la tête. Et au bout de ces 3-4 jours, ça en est ressorti de là, juste que j'avais besoin de me reposer, que j'avais besoin d'une pause. Et en vrai, suite à cette pause, donc ça a été assez difficile pour moi d'annoncer à mes collaborateurs que j'avais besoin d'une pause, parce que je suis toujours présente, toujours dispo. Donc j'ai écrit une lettre, je leur ai lu ma lettre à mes collaboratrices, que c'était essentiellement des filles, qui m'ont dit pas de souci, on prend le relais, etc. Donc elles ont été super à l'écoute. Les partenaires avec qui je travaillais, ça leur a posé aucun problème parce qu'en fait on n'annulait pas les interventions, c'était juste mes collaboratrices qui allaient à ma place pour me remplacer sur certaines actions. Bref, tout était très simple et en fait je me suis fait de cette pause dont j'avais besoin depuis plusieurs mois une montagne en me disant j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit d'arrêter. Et en fait, les gens, ça leur pose aucun problème. Et en une journée, j'avais prévenu tout le monde et j'ai pu faire ma pause. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que j'avais pas envie de faire des antennes. Là, vraiment, au bout de 7 mois, j'ai fait à peu près 7 mois de pause. Je me suis arrêtée à peu près 7 mois. J'avais pas envie de faire des antennes. J'avais pas envie de grossir dans ce sens-là, mon entreprise. J'avais plus forcément envie de faire du management, même si j'avais une équipe magnifique et avec qui je suis encore en lien aujourd'hui. Mais c'était pas le métier en réalité initial que je voulais. Et puis ma vie personnelle que j'avais beaucoup mis de côté, enfin disons que j'avais 80% de vie professionnelle et 20% de perso. Et en fait je me suis dit, mais en faisant des petits exercices, ça serait bien que j'investisse aussi les autres plans, le sport, que je reprenne par exemple le sport, mon sommeil, ma santé, ma vie personnelle. Donc en fait j'ai fait le point et ça m'a aidé à vraiment me dire c'est quoi la réussite, c'est quoi ma réussite à moi. Et ma réussite, c'est pas d'avoir des antennes, c'est pas d'être chef d'entreprise avec plein de salariés, c'est pas de passer ma vie au travail, c'est d'explorer ma vie personnelle, d'avoir du temps libre. C'est hyper important pour moi, je m'en suis rendu compte. Et du coup, j'ai tout recalibré l'entreprise. Et donc, depuis septembre de cette année, enfin de 2023, cette année scolaire, Heureux d'apprendre, c'est devenu un organisme de formation. J'ai plus qu'une seule personne qui travaille avec moi jusque juin, du coup. Et j'ai beaucoup de temps libre et j'ai spécialisé mes actions et j'ai supprimé plein de choses. Enfin, voilà, j'ai tout retravaillé, en fait, l'entreprise. Donc, le challenge, c'était ça. C'était l'épuisement et la perte de motivation. Je pense qu'on l'a compris. Moi, j'aime bien savoir où je vais et toujours avoir un regard sur le futur. Et là, j'en avais pas du tout. J'avais vraiment rien. C'était la première fois où rien. Donc, mais en fait, c'est parce que j'avais besoin de me concentrer sur la réorientation. Donc, ça m'a aidé à identifier c'est quoi ma réussite à moi et pas celle qu'on me proposait ou celle que la société me proposait.
Exact.
Donc, ce serait ça.
C'est vraiment super inspirant de t'écouter, Lisa.
Merci.
Tu as une histoire de vie qui est la tienne, qui t'appartient, avec tes challenges, avec ce qui se passe. Et il y a plusieurs points qui viennent me toucher, moi, parce que ça vient, tu sais, toucher certains points. Et je trouve ça super inspirant. Donc, c'est un... Bon, encore une fois, c'est une super rencontre qu'on fait aujourd'hui.
Grâce
à Samir qui nous a mis en relation. Ouais. C'est vraiment génial. Donc, merci pour ces partages. C'est
merci beaucoup.
Cool. Ouais, merci vraiment. Merci à toi, Lisa. Alors, on a déjà plein d'éléments. Je pense, Julien, que là, moins de questions que d'habitude, on a quasiment beaucoup de choses. Mais j'ai quand même envie de poser cette question-là pour nos auditeurs. C'est quoi les trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres? Peut-être que ça pourrait les intéresser, ça.
Les trois enseignements, je dirais... Je vais me le dire aussi pour moi-même, c'est vraiment essayer d'être le plus libre possible. Et ce que j'entends par liberté, c'est vraiment être soi-même le plus possible. Et donc, c'est un gros apprentissage de se déconditionner du regard des autres, des conditionnements qu'on a pu avoir comme tout le monde par notre enfance, notre parcours, des mécanismes de défense. Et en fait, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire. C'est essayer de trouver réellement qui on est indépendamment de tout ça. Et du coup, se sentir hyper libre à l'intérieur de soi. Ce serait ça. C'est vraiment essayer d'être soi-même, quoi. Si je dois simplifier, c'est cette quête-là, je pense, qui est au-delà de tout une des plus importantes. La deuxième, un enseignement, ce serait pareil pour moi-même. C'est aussi pour moi-même que je le dis. J'ai fait un post il y a quelques jours là-dessus sur le filtre qu'on choisit de mettre, la paire de lunettes qu'on choisit de mettre pour regarder le monde, qui en fait impacte toute notre vie. Donc peut-être essayer de choisir la paire de lunettes, le filtre qu'on a envie de mettre, si on a envie de voir le monde beau ou alors triste, si on a envie de voir le positif ou alors le négatif, pour être un peu binaire, mais voilà, ce serait ça. C'est de se rendre compte qu'on peut choisir. Et le troisième enseignement, c'est d'essayer d'aller chercher toujours le bien dans tout, je pense. Bon, je sais pas si ça fait un peu bisounours, mais c'est ça. C'est essayer d'aller chercher le bien en soi, chez les autres, mais aussi dans ce qu'on peut faire au quotidien, en disant en fait qu'on va pas rester très longtemps ici, en réalité, et que si on peut laisser une trace de bien, en fait, ça participe à un truc beaucoup plus grand. Voilà, on aura participé à notre échelle, quoi. Ce serait ça. Mais c'est vraiment pour moi aussi, là, je me le dis pour moi aussi, parce que j'ai pas toujours la paire de lunettes positives, j'ai pas toujours cette pensée-là. Donc je me le dis aussi pour moi.
C'est ok.
Ça fait partie
de l'équilibre. Paire de lunettes, des fois.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Génial.
Ouais.
Écoute, je pense pas qu'on ait beaucoup plus de choses à te demander, même si on pourrait encore discuter pendant longtemps, parce que c'est vraiment passionnant de t'écouter, puis de découvrir ton histoire et ta manière de voir les choses, de faire. Mais on a déjà là des éléments qui sont précieux, alors qui font à nouveau écho à ce qu'on partage très souvent avec Samir, que ce soit dans la systémique du succès, dans la systémique du bonheur, ou tout simplement auprès de nos étudiants. Et ce que je te propose, si c'est OK avec toi, Lisa, c'est qu'on te fasse un retour de ce qu'on observe chez toi et de ce qu'on note sur tes stratégies de succès, de réussite, et comment est-ce que ça peut être appliqué par d'autres personnes.
Oui.
Je vais commencer, Samir, si t'es OK.
Vas-y.
Le premier point qui a attiré mon attention, et c'est venu dès le départ, puis tu l'as répété à plusieurs reprises, c'est ton orientation temporelle qui est vraiment sur le futur. T'as une orientation très importante sur le futur. Ce regard de demain, et en fait, tu as ce qu'on appelle dans le jargon PNListe, une subordination temporelle de ton futur sur ton présent. C'est-à-dire que tu fais aujourd'hui en fonction de ce que tu penses qui sera demain. Tu agis aujourd'hui en fonction de ce qui pourra se produire demain. Donc, il y a un rapport vraiment où tes actions, tes décisions, tes choix, ton engagement... Tu le fais pas par hasard. Tu le fais parce que ça a un lien avec ce que tu vois pour plus loin, pour ce que tu imagines pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment un point qui est très récurrent dans les stratégies de succès, c'est cette capacité d'avoir de la clarté sur là où on s'en va, cette clarté que tu as perdue à un moment donné quand tu as dû faire cette pause et qu'en fait, bah, tu t'en es plus remis à toi-même, ce qui me fait rebondir sur un deuxième, puis Samir, je te laisse prendre la suite après, c'est que tu utilises ton cadre de référence en interne. Ça, c'est ton mode de fonctionnement. C'est-à-dire que tu prends l'info, puis tu digères ça, et tu regardes à l'intérieur de toi, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Et quand, au départ, t'es parti dans cette dynamique de « j'ai une équipe de 6 personnes, puis après je vais faire des antennes », bah en fait, c'est des informations qui t'appartenaient pas. Mmh. C'est ce qu'on te disait autour de toi. C'est « tiens, tu pourrais faire ça, puis ça serait bien de mettre ça en place, puis tu sais, arriver à ton stade, bah en fait, faut que t'évolues, puis faut que tu mettes ça ». Et en fait, t'as pris, tu t'es perdu parce que t'étais plus connecté à toi, et c'est chouette que t'aies pris ce temps-là de « attends, je fais une pause, je remets tout à plat ». Et t'as appliqué quelque chose qui est essentiel en entrepreneuriat, puis je pense qu'on a dû te l'expliquer à plusieurs reprises, c'est que quand ça marche plus, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir en rajouter plus, puis courir de partout, alors que la règle, c'est de simplifier le plus possible, puis de revenir au basique et à l'essentiel. Mmh. Ce que t'as fait toi, justement, avec cette prise de recul. Et je vais terminer, en tout cas pour cette partie-là, avec cette phrase qu'on dit souvent à l'Institut, qui est « tu ne te perds pas parce que tu sais pas où tu es, tu te perds parce que tu sais pas où tu vas ». Et à ce moment-là, t'étais perdu parce que tu savais plus où t'allais. Mmh, donc, t'avais perdu, tu sais, ce lien avec le futur qui est essentiel dans ton mode de fonctionnement.
Mmh.
Ça va, ça fait du sens pour toi?
Complètement, c'est complètement ça. Ouais. C'est agréable de synthétiser comme ça, c'est tout à fait ça.
C'est cool. Samir, je te laisse prendre la suite.
Ça marche. Bah, ce point-là aussi, juste, j'aimerais ajouter, c'est vrai que ça revient souvent et que c'est, je pense, une recette du succès qui est universelle parce qu'elle revient tout le temps, en fait. C'est que avoir du sens, faire quelque chose pour quelque chose qui nous dépasse, c'est une clé du succès. C'est un moteur qui permet d'avancer. C'est comme un point de mire, en fait, comme un soleil que tu vois au loin comme ça, et tu sais que même si, ou plutôt une étoile, ou même si t'es dans le noir, en fait, tant que tu perds pas cette étoile de vue, bah tu vas pouvoir continuer d'avancer vers ton objectif. Donc c'est juste pour ajouter à ce que dit Julien, et il a très bien synthétisé, hein, mais c'est ça, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu perds ce sens profond, le pourquoi tu veux faire les choses, cette connexion profonde de s'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, bah à ce moment-là, en fait, on sait plus où on est, on sait plus où on va, et on perd tout, en fait. C'est vraiment douloureux. Le truc aussi qui m'a, moi, marqué, c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est, et je le vois en tout cas chez beaucoup de nos invités, l'antifragilité et ta capacité plutôt ta responsabilisation. J'allais dire ta capacité à recadrer. Tu as une capacité de recadrage, mais je dirais plus que, en lien avec ton antifragilité, il y a la responsabilisation. Dans le sens où les choses ne vont pas, tu dis, OK, les choses ne vont pas, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Moi, comment je peux faire les choses? Et l'antifragilité, comme je l'ai déjà dit, c'est, tu vis quelque chose, cette chose-là va te mettre en down total, t'as le front au sol, mais tu prends le temps de rebondir, tu te relèves, mais en plus, tu te renforces derrière. Et au travers des difficultés que t'as vécues, c'est ce qui s'est passé. C'est que, tu sais, on t'a mis le front par terre, là, tu t'es levé, on t'a remis le front par terre, tu t'es levé, mais t'es devenue encore plus forte. Et ce qui a fait qu'en fait, au final, t'as pris une revanche sur la vie, puisque les mêmes personnes qui ont essayé de te mettre au sol, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils travaillent avec toi, et en fait, ils ont besoin de toi pour pouvoir avancer. Et ça, c'est une de tes recettes du succès. Et qui vient peut-être aussi de la boxe. Je me demande si c'est pas quelque chose aussi que t'as, qui était soit déjà présent et que tu as réutilisé au travers de la boxe, soit c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est développé davantage au travers de la boxe. Alors, je sais pas quand est-ce que tu as connu Daouda, si c'était avant ou après ton projet. Mais en tout cas, voilà, c'est une des clés de ta réussite, l'antifragilité et cette capacité de responsabilisation de, tu sais, tu aurais pu te mettre en victime. Tu aurais pu dire, ouais, mais de toute façon, on veut pas de moi. La société, elle est comme ça et j'y arriverai jamais, comme il y a des personnes qui le font, qui tombent dans ce raccourci-là. Toi, en fait, non, tu t'es dit, écoute, non, je me laisserai pas avoir. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux poser, moi, aujourd'hui, pour défoncer les portes, en fait? On t'a fermé des portes, tu les as défoncées.
Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant et c'est hyper parlant. Et merci beaucoup parce que ça me permet, moi aussi, d'en prendre conscience. Je pense qu'effectivement, c'est aussi ce besoin de contrôler et d'être en fait de pas se laisser. Je pense que j'ai une panique de rien pouvoir faire, et donc dans chaque situation je me dis ok, je peux faire un truc, Et tout à l'heure, en rigolant, je disais que j'avais peur de l'avion, mais c'est parce qu'en fait, on peut rien faire. Nous, en tant que passagers, on doit juste s'asseoir et se laisser porter. Peut-être des choses que j'ai moins du mal. Je dis toujours qu'une qualité, elle a un pendant. C'est toujours par polarité. Donc, ma qualité, effectivement, qui est le besoin de contrôle, ça m'apporte tout ce que tu viens de dire. Mais aussi, parfois, le fait de se laisser porter et de lâcher prise, c'est bien aussi. Et ça, c'est ce que j'aurais plus à travailler. Mais ça me permet, moi, de prendre conscience qu'effectivement, j'ai à travailler lâcher prise. Mais en fait, ça m'apporte aussi tout ça. Ça m'apporte aussi cette combativité, ce côté, effectivement, où je me relève et où j'avance et où j'essaye de construire et de faire quelque chose, de me responsabiliser. Et c'est des mots hyper intéressants que j'ai envie de garder. Donc, merci beaucoup pour ce retour. C'est hyper enrichissant. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Oui, bah, en fait, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut ramener. Mais un autre point, peut-être, qui est important et qui fait à nouveau partie un peu des clés essentielles pour, justement, réussir, progresser, avancer. Alors, le fait d'avoir une vision comme tu as, c'est très important. Beaucoup de gens avancent dans le quotidien sans avoir de point de mire, sans avoir de cible, en fait, devant eux. Et c'est compliqué. Mais un point qui ressort, en tout cas chez toi, c'est ce côté de voir le positif, d'essayer de voir les aspects qui sont... qui sont positifs, qui sont bons, les choses qui vont être plaisantes. Mais peut-être justement parce que tu disais tout à l'heure, je veux pas trop faire bisounours. Et en fait, je pense pas que tu sois dans ce côté bisounours que parfois on nous met cette étiquette quand on a une vision plus positive que la moyenne du monde qui nous entoure et des gens. Mais en fait, t'es pas dans le biais du bisounours parce que tu rattaches ça à la réalisation de quelque chose. Tu sublimes ce qui peut se passer devant toi, ce qui peut se passer dans ta vie, dans tes expériences, et tu l'utilises comme un moyen de pouvoir aller plus loin. Donc, tu sais, c'est pas vraiment le côté bisounours, parce que le côté bisounours, ça serait juste de dire, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, le monde est merveilleux, puis tout va bien, et tu sais, t'en restes toujours au même point. Ouais. Et j'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas le sentiment que si on te reparle dans 10 ans, jour pour jour, tu sois toujours au même endroit à faire toujours la même chose. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, il y a d'autres progressions. Si demain je lis dans le journal que Lisa est à l'UNICEF ou à l'ONU pour défendre les droits à l'éducation et l'importance de l'éducation, je serais pas surpris. D'accord? Parce que tu as ce côté, je vois le côté positif, mais je l'utilise non pas pour juste apaiser mon anxiété ou mes névroses, je le fais aussi parce que ça me permet de voir et de construire quelque chose de différent et d'aller de l'avant. Alors, c'est vrai que t'as dit que t'étais beaucoup dans le contrôle. Et en fait, d'être dans le contrôle, c'est un moyen pour toi de gérer ce qui se passe à l'intérieur, tes inquiétudes, tes incertitudes, puis c'est OK. Et c'est très lié aussi, de toute façon, à ton rapport au temps qui est orienté beaucoup vers le futur.
Ouais.
Quand on a un rapport au temps qui est très orienté futur, avec une subordination aussi forte, je te dirais que c'est comme normal d'avoir un profil anxieux par rapport justement à ce rapport constant à l'avenir. Donc, le contrôle, c'est le moyen d'eux, mais tu as su aussi te challenger et te dépasser pour faire des choses que tu avais peut-être pas envie de faire. Tu as revu à la baisse tes attentes pour trouver un emploi. Tu as essayé de te positionner parce que tu voulais faire quelque chose, tu voulais pas rester inactif, tu voulais pas rester là à attendre que les choses se passent. Et il y a un truc qui est fort en fait dans tout ça et qui va faire, je pense, que ça va t'accompagner encore longtemps. C'est qu'on a une partie dans notre cerveau qui détient grosso modo notre willpower, notre désir de faire des choses, notre désir de nous engager et d'avancer. Et en fait, les recherches démontre depuis quelque temps que cette zone n'est pas seulement liée à cette envie de faire des choses, mais elle est liée aussi à l'envie de vivre, simplement. Le fait d'avoir envie d'exister. Et quand tu te challenges comme ça, comme tu le fais toi, quand tu fais des choses auxquelles tu te dis au départ, tu sais, la boxe anglaise, ça me parle pas, c'est sûrement pas fait pour moi, mais j'y vais pareil, je le teste. Quand je me dis, je veux faire ça, mais ça marche pas. Je vais ouvrir d'autres portes, puis je vais aller tester d'autres choses. j'ai jamais pensé à devenir entrepreneuse, puis en fait, je le fais. Ben, en fait, tous ces moments où tu fais des choses que t'étais pas censé faire ou que t'avais pas envie de faire, comme le fait de dire, ben, je prends mon billet d'avion, puis je vais prendre le temps de réfléchir, même si j'ai envie de rester en contrôle, mais il faut que je fasse une pause. Ben, en fait, chaque acte que tu poses comme ça, qui va un peu à, tu sais, qui est un peu contre-intuitif de ce qui pourrait être facile et confortable pour toi, tu construis cette puissance et cette envie, en fait, de faire, d'accomplir, de vivre au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie, à mon sens, des piliers importants qui définissent, bah, les chances de succès et de réussite d'une personne dans sa vie. Donc, tu le développes, tu l'entretiens, puis c'est super inspirant de le voir, en fait, ressortir comme ça chez toi. C'est cool.
Merci beaucoup. Waouh. Je pense pas que tu puisses ajouter quelque chose à ça. C'est hyper intéressant. Et quand tu dis effectivement le besoin de vivre et d'exister, c'est sûr que ça me parle. Comme je dis, j'aimerais bien avoir plusieurs vies dans une même vie. Et c'est une soif de, voilà, de vivre. On me dit souvent le matin, moi, j'ai beaucoup d'énergie le matin. Et en fait, je me rends compte, des fois, je suis un peu en décalage avec les gens. Tu vois, c'est mon meilleur moment le matin. Je suis au top demain. En fait, le matin, c'est un peu comme dans les dessins animés, mais je me lève et je suis là, encore une nouvelle journée. Une nouvelle... Et des fois, ouais, pour mon entourage, ils sont là en mode, mais calme-toi. Mais c'est vrai que j'ai ce truc de, c'est trop bien de vivre, en fait, et j'ai envie d'explorer et exploiter, ouais, à fond cette vie. Et c'est intéressant la manière dont tu le mets en perspective, et j'aime beaucoup le concept de sublimation que tu as employé, parce que je pense qu'effectivement j'essaye de matérialiser ce que je peux vivre, bien comme moins bien, en quelque chose, que ce soit un projet, toujours, ouais, essayer de le matérialiser par quelque chose et d'en faire quelque chose, et c'est hyper intéressant de le théoriser comme ça. Merci beaucoup vraiment pour vos retours.
Bah, merci à toi pour ces partages, toi, justement, qui nous permettent de repartager justement ces informations. Mmh. Et puis Samir est un grand spécialiste aussi du recadrage de sens, du recadrage de valeur.
Pareil, que
j'ai
un doctorat d'après lui.
et en fait, bah, tu nous montres que dans tes stratégies, tu as cette puissance aussi de recadrer. Tu sais, tu prends, t'encaisses, t'as appris à prendre des coups aussi avec la boxe, donc t'encaisses, puis t'as des moments qui sont moins faciles, puis après tu remets les bonnes lunettes, tu regardes devant, puis c'est reparti pour un tour, quoi.
Ouais, c'est complètement ça. Donc, c'est hyper intéressant.
C'est génial.
Ouais.
Bah, merci.
Je me questionne pas mal aussi parfois pour le recadrage. Pour ma part, peut-être toi, Lisa, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je pense que mon recadrage vient aussi beaucoup de ma foi. Il y a cette fameuse parole du Coran qui dit, en fait, qu'il se peut qu'il vous arrive quelque chose que vous aimez alors que c'est un mal pour vous. Et il se peut qu'il vous arrive quelque chose que vous n'aimez pas alors que c'est un bien pour vous. Et c'est vrai que cette parole, moi, personnellement, elle m'a beaucoup, beaucoup porté dans ma vie. Qu'il arrive quelque chose, j'aime pas la chose, parce que c'est peut-être quelque chose de douloureux, on va coller une étiquette négative dessus. Mais en fait, derrière, bah, en fait, je garde à l'esprit que il y a peut-être quelque chose à apprendre, il y a peut-être quelque chose à dépasser, et il y a peut-être un bien derrière, et il faut regarder au-delà même de cette étiquette qu'on pose dessus. Et, je pense que c'est une partie des choses qui me permettent de recadrer. Je sais pas pour toi comment ça fonctionne.
Bah, je te rejoins. En tout cas, la foi, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui est très intime pour moi. Mais en fait, c'est ce qui, je pense que c'est en réalité le cœur aussi de tout ce que je fais, et le moteur même, peut-être le cœur. Ouais, c'est ça. En fait, si on prend l'analogie d'un corps, c'est ça. Ce serait le cœur, parce que finalement, quand il nous arrive quelque chose, c'est ça. C'est aussi, à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être pas, je sais pas, hein, c'est vraiment peut-être pas ce désespoir, parce qu'il y a cette lumière qui est constamment là, de dire, mais en fait, ça a un sens. Et on nous renvoie aussi à la responsabilisation de dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, à mon niveau, pour améliorer la situation. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans ça, de me dire, déjà, je suis pas seule, il y a forcément une lumière. Et puis du coup, moi aussi, en tant que croyante, j'ai quelle responsabilité j'ai pour améliorer la situation, que ce soit quand il y a un conflit avec quelqu'un, quand il y a une situation de difficulté. Mais c'est vraiment cet espoir, ouais, je dirais cet espoir, je te rejoins, qui rejoint la phrase que tu viens effectivement de dire. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de bien qui peut en sortir, donc du coup, explorons et voyons. Mais ouais, c'est vrai que, bien sûr, la foi, c'est le souffle, on va dire que c'est le souffle aussi de qui, dans mon projet, dans ma façon de vivre, dans finalement ma vision de la vie aussi, ça fait beaucoup, je pense.
Ouais, exact. Du coup, on peut faire du coup ce lien, Julien, qu'on enseigne beaucoup à nos étudiants, l'importance de la spiritualité. Alors, quand on parle de spiritualité à l'institut, à nos étudiants, on ne parle pas forcément de religion ou quoi, parce que la spiritualité peut être hors d'une religion. Ça peut être une connexion profonde à l'humanité, ça peut être beaucoup de choses. Moi, dans mon cas, elle est en lien avec ma religion, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être en lien avec d'autres croyances, ça pourrait être en lien avec une mission de vie, ça peut être en lien vraiment avec une connexion à quelque chose qui nous dépasse, quoi. Mais souvent, en fait, il y a cette spiritualité qui est en lien avec le recadrage. Et j'ai l'impression aussi, avec le succès aussi, Julien, ça revient souvent, même si la personne n'est pas d'une religion en particulier, mais elle a une connexion spirituelle à quelque chose qui la dépasse.
Ouais. Pardon, vas-y, Julien, excuse-moi.
Non, vas-y, je t'en prie.
En fait, c'est vrai que la religiosité, c'est tout, à mon sens, hein, les pratiques externes, et ça, c'est effectivement, je suis aussi religieuse, mais la spiritualité, je dirais que c'est vraiment la notion de vie intérieure. Ouais. Tu vois, c'est la notion d'intériorité. Et en fait, quand tu commences à rentrer dans ta vie intérieure, ne serait-ce que de questionner sur comment tu vas, ce que tu penses, qui tu es, en fait, c'est un monde infini. Et de toute façon, on a de très grands spirituels, même dans la religion musulmane, qui ont passé leur vie à étudier la vie intérieure, parce que c'est en fait extrêmement riche. Et je pense que dès lors qu'on soit religieux ou pas, qu'on s'intéresse à sa vie intérieure, il se passe plein de trucs parce que du coup, on est conscient. Et ça aussi, ça demande parfois d'être recadré parce qu'on est dans un monde très matérialiste. Et même dans la pratique religieuse, des fois, sans le savoir, on est matérialiste au sens où on va beaucoup se concentrer sur ce qui est concret, les pratiques matérielles et donc religieuses. Mais on va oublier qu'il y a aussi la partie vie intérieure qui, en fait, est le cœur de notre religion, si voilà, je te parle de l'islam, mais aussi le cœur de notre existence, je pense, en tant qu'être humain. On n'est pas que des êtres corporels, on est aussi des êtres spirituels. Et je pense que faire juste prêter attention à cet aspect-là de notre être, il y a des trucs qui se passent et je pense que ça propulse notre existence vers autre chose. Donc, ouais, je te rejoins. La spiritualité, c'est vraiment, je pense, essentiel, mais ça se nourrit. Et ça surtout nourrit, dans un monde où elle se vide facilement.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, Julien, vu qu'on a déjà eu ces discussions-là, et je prends ce que dit Lisa, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, spiritualité et religion, c'est deux choses qui peuvent être qui normalement sont censées être complémentaires, mais qui ne le sont pas toujours. Et une religion qui a pas de spiritualité, ben tu vas vivre le truc à moitié, tu vas être comme une personne qui a les deux jambes cassées mais qui s'appuie que sur une seule béquille. Et inversement de l'autre côté, cette spiritualité peut être aussi en lien avec quelque chose qui nous transcende, qui dépasse et quelque chose. Cette spiritualité est importante quoi qu'il arrive pour pouvoir avancer vers le succès parce qu'elle nous connecte à quelque chose qui nous dépasse. On sort de l'être personnel. On se connecte à ce lien qu'on a avec tout le monde, en fait. C'est ce qu'on peut apporter aux autres, ce qu'on peut laisser à l'humanité, et aussi à cette conscience du fait que on est peut-être un petit grain de sable dans l'univers, mais on a quand même un impact sur les gens qui nous entourent et aussi sur l'univers. Donc, si on fait quelque chose de mal, on aura un impact sur les gens qui nous entourent, qui auront peut-être eu un impact sur les gens qui les entourent. Et forcément, c'est une chaîne. Donc, vraiment, ouais, ça me passionne et, Je mets ça en avant. Ouais.
C'est hyper hyper intéressant et moi aussi. Ouais, si on se lance là-dessus, c'est sûr qu'on pourrait faire un podcast. mais c'est très très enrichissant aussi, très intéressant.
Peut-être Julien, il y a un point que j'aimerais mettre en avant du coup sur le succès de Lisa et qui nous touche beaucoup. Hein, c'est l'hypersensibilité. Hypersensibilité puisque c'est un point. Tu sais, on met un point d'honneur là-dessus. L'hypersensibilité, la typicité, c'est qu'en fait tu as su, en tout cas je pense, transformer ton hypersensibilité et l'utiliser comme super pouvoir. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui disent en fait j'en ai marre, j'aimerais bien ne pas être hypersensible, c'est difficile à vivre, et en fait qui, en rejetant leur hypersensibilité, passent à côté de leur pouvoir, parce que vu que c'est, s'il te plaît tu peux enlever ta queue, vu que c'est en fait une composante de leur identité plutôt, et elle construit leur sensibilité, leur côté artistique, leur côté innovant de penser en dehors de la boîte, en fait, d'être atypique et d'apporter des choses qui sortent de l'ordinaire. Bah malheureusement, en fait, très souvent ils passent à côté de leur succès. Et toi, en fait, t'as su justement déjà accepter cette hypersensibilité, j'ai l'impression aussi l'embrasser en quelque sorte, Et tu le disais même au travers de tes émojis là, t'es quelqu'un qui vit les choses pleinement. Soit tu vas être hyper heureux, tu vas rigoler, soit tu vas être hyper énervé, soit. Et c'est vrai qu'on est comme ça hein, en tant qu'hypersensible. Moi, je le dis souvent, je vis les émotions à fond. C'est quelque chose est venu m'énerver. On va le voir. Ça va être très impulsif. Tout va bien. Je peux passer de ça à je vais sauter partout. D'un coup, j'ai énormément d'énergie. Et c'est vrai que parfois, ouais. ma femme, elle me dit, mais je comprends pas. En fait, il y a 2 secondes, t'étais épuisé. Et là, d'un coup, en fait, tu t'es levé, tu commences à sauter partout, t'es content. Et en fait, pourquoi? Parce que je vis les émotions. Y a quelque chose qui est arrivé où je parle avec quelqu'un qui vit des émotions négatives. C'est comme, pouf, j'ai plus d'énergie. C'est fini. Ouais. Mais d'un coup, je vais recevoir une nouvelle qui va être hyper positive, qui va me nourrir. C'est comme, paf, d'un coup, je vais commencer à sauter partout. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est une partie de ton succès, et ça fait partie aussi de ton succès, cette hypersensibilité que tu as accepté, parce que si on l'accepte pas, on peut pas l'utiliser, en tout cas à son plein potentiel. Et ça revient en tout cas beaucoup avec Lisa Simpson, Mathilda, et Lisa Simpson aussi. Je pars un peu dans tous les sens, désolé mon esprit qui part un peu dans tous les sens, mais Lisa, il y a aussi quelque chose qui vient de ton hypersensibilité, c'est l'analyse de ce qui se passe autour de soi. Tu dois être une très très bonne analyste. Tu regardes, tu vois vraiment les choses à 360 degrés, avec aussi peut-être une pensée arborescente qui une idée va en amener plusieurs, etc. Et aussi derrière, au travers de ce qui nous vient de Lisa, c'est cette connexion profonde avec les autres. Et ça vient au travers de l'analyse en fait. Cette connexion profonde et sincère avec les gens qui t'entourent.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Ça a été clair, mais je suis partie beaucoup.
C'est très clair. C'est très très clair. Ouais, ce côté analytique. Alors effectivement, j'ai aussi la phase être hypersensible et c'est compliqué. Je pense que ceux qui le sont l'ont régulièrement en fonction des phases. Et j'ai découvert tardivement ce que c'était, parce que c'est en lisant un livre une fois où, comme beaucoup de gens, j'ai eu le fameux soulagement de comprendre qu'en fait c'était quelque chose qui s'expliquait, etc. Mais au début, je pensais juste que je savais pas gérer mes émotions, quoi. Donc il y a eu, en plus, pour quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle aussi, c'était pas forcément évident. Et je crois que tu as raison, au fur et à mesure des années, en fait, je me rends compte que c'est ce qui fait qui je suis, c'est ma force et c'est mon moteur aussi, et que c'est ce qui donne de l'énergie et de l'authenticité aussi dans mon travail, dans mes relations. Et ça vient aussi m'expliquer mes besoins. Tu vois, mon besoin, comme tu l'as dit, de connexion profonde et vraie aux autres. Ou parfois, je peux me sentir frustrée d'être dans des écosystèmes où, justement, la norme, c'est plutôt de rester en surface, de faire semblant, de porter des masques et tout ça. Et là où moi, je me dis, j'ai envie d'aller comprendre profondément qui est cette personne, qu'elle soit vraie avec moi, qu'on rentre. Et en fait, tout ça, ouais, je l'ai compris en me disant, c'est mon hypersensibilité et puis ma façon de voir le monde. Mais ouais, franchement, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une force et j'en suis encore une fois reconnaissante aussi. Et j'essaye aussi d'accompagner les autres à se dire, t'inquiète, c'est une force. Oui, des fois, c'est fatigant, mais c'est une force.
Génial. Alors, j'aurais un dernier point, en fait, à partager par rapport à tout ce que tu nous as donné, Lisa, aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on aura déjà fait le tour de pas mal de choses. On aura sûrement l'occasion de se reparler, de toute façon.
Avec plaisir.
Il y a une phrase que tu as évoquée tantôt, par rapport au moment où, en fait, tu étais dans ce challenge de pas réussir à trouver un emploi, d'être finalement rejeté pour les raisons qui étaient, les raisons que tu as évoquées, puis on en pense qu'on veut. Mais à ce moment-là, en fait, tu as dit une phrase qui était importante et je pense que cette phrase, il y a pas mal de gens qui se l'ont déjà dite. Ce que je fais sera jamais assez pour être accepté. Tu l'as formulé de cette manière-là. Okay. Et clairement, cette phrase-là, elle est représentative d'une croyance profonde qui se construit au fur et à mesure des expériences et des répétitions d'expériences du même type. Et ce qui est beau, c'est que tu as peut-être quelque part développé ce niveau de croyance à un moment donné par tes expériences répétées. Mais du coup, je refais le lien avec, pour toi, ta religion, ta spiritualité qui ne font qu'un, mais cette capacité, en fait, d'être connecté à quelque chose de plus grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est que si on regarde les points communs entre les personnes qui vont s'enfermer dans leur trou et vont descendre de plus en plus bas et ne sont pas bien et ne voient que le côté négatif des choses. Et ceux qui vont, au contraire, se remettre dans la lumière, progresser, aller de l'avant, dépasser les challenges, ben en fait, il y a un point commun, c'est est-ce que je regarde mon nombril ou est-ce que je regarde à l'extérieur de moi et je connecte avec quelque chose de plus. Et si tu n'avais peut-être pas toute cette connexion à quelque chose de plus grand que toi, si tu n'avais pas cette propension à, et en fait cet appel intérieur qui est très propre au profil atypique, d'avoir le sentiment d'avoir une mission à accomplir et de faire quelque chose dans ce monde, bah peut-être que tu serais parti de l'autre côté et que finalement tu n'aurais pas accompli tout ce que tu as accompli parce que tu aurais donné de la place à cette croyance que de toute façon, peu importe ce que tu fais, ce ne sera jamais assez pour que tu sois accepté.
Oui, complètement.
Et je voulais vraiment le remettre en lumière parce que bah, c'est des phrases qu'on peut se dire parfois dans les moments d'adversité. Et c'est OK, en fait, de se le dire. Le problème, c'est pas de se le dire. Le problème, c'est après, c'est de le répéter, puis de l'entretenir et de le raisonner, de le justifier. Alors qu'en fait, si tu te rappelles que tu peux chercher à avoir, tu peux chercher à faire, tu peux chercher à être, ou tu peux chercher à être, mais plus large, avec un impact sur le monde, en fait, plus tu vas chercher haut dans tes raisons, moins tu as de chances d'être au fond du trou. Donc, c'était vraiment pour remettre ça en perspective, et je pense que ça fait grandement partie de tes stratégies de progression, d'avancement, de réussite. Ouais. Donc, je voulais juste le remettre en lumière parce que c'est quand même quelque chose d'important.
Bah, merci beaucoup. Vraiment, je prends vraiment ça comme des cadeaux. Là, c'est très, très, très parlant pour moi. Ouais. Merci.
Super. Merci à toi.
Vraiment. Et c'est vrai que ça, ce qu'on a fait aujourd'hui au travers de nos questions, etc., même si certaines questions peuvent paraître sans sens, tu vois, juste comme ça, ces petites des questions juste comme ça qu'on a balancées, en fait, derrière, il y a des choses qui sont révélées et ça permet, bah, tu connais un peu la PNL. La PNL, c'est aussi beaucoup de la modélisation, de regarder vraiment comment la fonctionne, comment la personne fonctionne, quels sont ses schémas de pensée, quelles sont les habitudes qu'elle peut avoir. Et après, par la suite, de prendre tout ça et faire comme une analyse d'un gâteau et d'aller chercher tous les ingrédients pour pouvoir, par la suite, aider la personne à reproduire ce gâteau-là. Donc, en fait, une fois que tu les remontes en conscience, que tu les connais, parce que, en fait, souvent, lorsque on est successful, on réussit, on le fait sans savoir pourquoi. On fait les choses. Et si quelqu'un nous dit, bah, comment tu fais? Tu dis, bah, je sais pas, en fait. Je fais les choses et j'ai aucune idée de comment je fais et je pourrais même pas te donner des conseils sur ça, je fais juste les choses. Mais une fois que ça remonte en conscience, ben en fait, on est en capacité d'utiliser ce super pouvoir-là en conscience. Donc même quand ça va pas, de hop, ah, regarde, je suis en train de tomber dans mes pièges, en fait, je suis plus connecté à telle recette du succès. Donc peut-être que là, maintenant, il va falloir que je mette un petit peu de cette recette-là pour pouvoir réussir. Donc c'est en ça que c'est intéressant, justement, la modélisation et de voir au travers de ces questions-là un petit peu ce qui en ressort.
Ouais. Ouais, ça permet vraiment d'en prendre conscience. Puis même les termes utilisés, et puis moi, j'aime bien quand c'est synthétisé comme ça et avoir un peu cette lecture-là globale. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Alors, je pense qu'on arrive au bout de notre podcast. On a déjà un super épisode avec plein de belles infos, des choses qui reviennent, qu'on a déjà évoquées dans d'autres podcasts et puis des nouvelles choses qui viennent s'ajouter. Donc, encore une super rencontre aujourd'hui. C'était vraiment génial. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager aux auditeurs et aux auditrices, Lisa, avant qu'on clôture cet épisode?
De poser un regard à l'intérieur de soi. Je finirai sur ça. Finalement, ça regroupe pas mal de choses qu'on a dit. Ouais. Et puis ensuite, il y a tout un monde qui s'ouvrira pour avancer, évoluer, aller mieux. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est aussi la lumière. Parler de la lumière et que la lumière qui est au bout du tunnel, de la lumière en soi, de la lumière qui existe. Parce qu'il y a aussi des gens, je sais, qui vivent des périodes très compliquées. J'ai aussi affaire avec les publics que j'accompagne à des gens qui sont vraiment en très grande souffrance et pour qui c'est pas encore le moment de faire tout le travail dont on est en train de parler. Et des fois, juste s'accrocher à la lumière, ça permet d'avancer pour ensuite poser les choses et se rendre compte des forces qu'on a. Donc ouais, vraiment s'accrocher à la lumière et essayer de poser le regard en soi, ce serait ça. Et vraiment, merci aussi. Merci pour cette super rencontre. Ces temps d'échange et tous les retours que vous m'avez fait, enfin, c'est hyper enrichissant pour moi, vraiment. Donc, un grand, grand merci. J'ai passé un super moment.
Nous merci aussi. À toi.
Vraiment.
Ouais, pareil.
Nous aussi. Vraiment, on a adoré. du coup, ça donne un petit rappel aussi à tout le monde qu'on a le droit de, et on doit, en fait, choisir d'être dans le bon camp et puis de devenir une force pour le bien. Donc,
cool. Ouais. Carrément.
Est-ce que tu aurais envie de partager peut-être des coordonnées ou tu sais, un site web, etc., pour que les gens puissent venir te suivre sur les réseaux sociaux ou...
Complètement. Bah, là où vous pouvez me suivre de manière un peu, où je suis un peu plus dans la proximité, c'est sur Instagram. Donc, vous pouvez taper Lisa Heureux d'apprendre et vous tomberez sur mon Instagram. Et du coup, en story, je communique assez facilement. Et sinon, sur LinkedIn, Lisa Alawa, où vous tapez Heureux d'apprendre. Et puis, mon site internet, heureux-d'apprendre.fr.
Ok. Génial. On va replacer tout ça de toute façon en détail sous le podcast et sous la vidéo YouTube qui va être publiée. Donc, gros merci, Lisa, vraiment. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Puis c'est une super rencontre, belle découverte et vraiment plein de beaux partages. Nous, on va continuer notre aventure de venir enrichir ce podcast avec d'autres rencontres qui vont arriver par la suite. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, on vous rappelle les règles du jeu, hein, c'est pas compliqué. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites en sorte de donner plus de place à ces personnes inspirantes qu'on rencontre à chaque fois. Et puis, à faire passer la bonne parole aux personnes qui en ont le plus besoin. Samir, je te laisse compléter si tu vois autre chose à rajouter.
Non, je pense que on a fait le tour. Et puis, écoute, toi qui nous écoutes, si tu vis des moments difficiles, si tu es en plein dans certains projets, c'est pas évident pour toi. Ça peut arriver à certains moments de se dire c'est difficile, j'y arriverai pas, ça va être compliqué. Je suis face à une montagne, la fameuse montagne, Julien, que je décris à chaque fois. Mais justement, de comprendre qu'en fait, inspire-toi de ce qui vient, en tout cas de nos auditeurs, des fameuses recettes qui reviennent le plus souvent et lâche rien, avance. Il y a toujours une porte qui s'ouvrira à un moment ou l'autre. Et si les portes ne s'ouvrent pas, peut-être que c'est à toi de la créer, cette porte. Mais lâche rien et entoure-toi de personnes inspirantes. J'ai envie de te dire, du coup, de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.
À la prochaine.